Petite histoire de science par Étienne Gis.
Un podcast de l'Académie des sciences.
Il faut savoir saisir l'actualité. Notre confrère Alain Aspect de l'Académie des sciences va recevoir le prix Nobel de physique. Nous en sommes tous ravis et c'est l'occasion aujourd'hui de discuter avec lui. Et puis ce sera en quelque sorte une avant-première pour une série de podcasts que j'aurai l'honneur de présenter à partir du 25 octobre prochain 2022. J'aurai le plaisir, en une quinzaine de minutes, d'interroger un scientifique pour qu'il me parle de ce qui le passionne, le plus souvent la science bien sûr, mais pas toujours. Je me présente rapidement, je m'appelle Étienne Gis et je suis l'un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences.
Je t'écoute tout en montant l'escalier.
C'est très bien. Très heureux de pouvoir discuter avec Alain Aspect dans un moment un peu chaud dans ta vie, puisque tu as appris avant-hier que tu avais le prix Nobel de physique. C'était une grande chance pour toi, mais aussi une grande chance pour toute la communauté physique, mais tout scientifique en général, et pour toute l'Académie des sciences. Tu étais à l'Académie quand tu as appris cette...
J'étais à l'Académie dans une commission.
Voilà. Alors justement, je voulais te demander, tu as été élu à l'Académie il y a plus de 20 ans, j'imagine, maintenant.
Oui. J'ai été élu en correspondant en 1995 et membre ordinaire, comme on dit, en 2002.
Alors, dis-moi quelques mots sur ta conception de l'Académie des sciences et ce qu'elle pourrait faire ou ce qu'elle fait ou comment elle peut progresser ou ce que tu penses que pourrait être l'utilité d'une Académie des sciences.
Tu veux dire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, oui.
Pas l'image que j'en avais quand j'étais petit.
C'est-à-dire ?
Mais non, mais pour moi, j'étais un petit enfant de la campagne, je lisais Jules Verne et pour moi, l'Académie, c'était un peu comme les sociétés anglaises, le club anglais, où démarre le tour du monde en 80 jours, tu vois.
Oui. Et,
bon, ça, c'était ma vision. Et quand j'y suis rentré, j'étais très heureux.
Tu es un enfant de la campagne ?
Oui, d'un petit village qui s'appelle Astafort, qui est connu pour être le village de Francis Cabrel.
Ah.
Mais maintenant, ils ont aussi Alain Aspect.
Mais je voulais te parler de Agen, puisque on ne va pas parler aujourd'hui de physique, mais tu aimes la lumière, tu aimes les photons, et par conséquent, tu aimes les photos. Et je sais que tu es intéressé par l'invention de la photocouleur, qui est reliée avec Agen, le musée d'Agen.
Oui.
Dis-moi des choses, et en particulier, tu as pu consulter ou utiliser quelques archives qui sont à l'Académie des sciences.
Et oui, et cette photo de l'archive de l'Académie des sciences joue un rôle important parce qu'elle est montrée dans une exposition qui est en 2002, je crois, au musée Marmottan, qui sont les archives photographiques de l'Institut de France. Et j'avais un peu entendu parler de Louis Ducos du Huron, inventeur de la photographie en couleur, mais j'avais quelques doutes. Je soupçonnais que la personne qui à Agen était en charge de donner des noms de rues, avait un peu exagéré en le qualifiant d'inventeur de la photo en couleur. Mais finalement, il y avait des collègues du CNRS, spécialistes de la photo ancienne, qui m'avaient dit non, il est vraiment important. Et puis, dans cette exposition du musée Marmottan, je tombe sur une Agen vue de ma lucarne en couleur. L'herbe est verte, les toits sont rouges, le ciel est bleu. C'est d'une qualité qui pourrait se comparer aux cartes postales qu'on peut acheter, tu sais, pour les touristes, des choses comme ça. Et là, je suis complètement scotché parce qu'on est en 1872, si tu veux.
Et c'était une révolution technologique ou une révolution scientifique ?
C'est les deux, mais le scientifique n'est pas purement physique, il est physiologique parce que, si tu veux, il invente la reproduction trichrome. Alors, j'exagère en disant qu'il l'invente parce que Maxwell, le grand Maxwell, en 1850, à l'idée de la reproduction trichrome. La reproduction trichrome, si on est simplement physicien, on ne peut pas comprendre. C'est le fait qu'on a dans notre œil seulement trois détecteurs.
Oui.
Un détecteur pour le rouge, un détecteur pour le vert et un détecteur pour le bleu. Et on n'est pas comme un spectroscope, on ne voit pas toutes les longueurs d'onde. Et donc, par exemple, quand on voit du jaune, en réalité, le jaune donne un signal d'égale intensité sur le détecteur de rouge et sur le détecteur de vert. Tu vois, parce que les courbes sont étalées.
Et d'ailleurs je te coupe un peu, certains animaux, certains papillons n'en ont pas 3, mais 8, je crois.
Bien sûr. Et alors, pour revenir à la façon dont nous, dont toi, on t'envoie du rouge et du vert en quantité égale, et ton cerveau dit jaune.
Voilà.
Voilà. Alors ça, ce que je viens de te décrire, c'est la synthèse additive, c'est-à-dire on t'envoie du rouge et du vert. Et c'est ce que tu as aujourd'hui dans les écrans d'ordinateur, et c'est ce que Maxwell démontre en 1850. Mais après, Maxwell a d'autres chats à fouetter,
oui. Et
il laisse tomber. Et ce que Ducos-Duron invente, c'est la synthèse soustractive, qui va être à la base de toute la reproduction des couleurs pendant quasiment tout le XXe siècle. C'est-à-dire, j'envoie un faisceau de lumière blanche, et j'ôte de ce faisceau de lumière blanche un certain nombre de composantes.
Bon, écoute, parlons de Alain Aspect.
Trop compliqué pour
non,
toi,
non, pas du tout. En plus, j'adore ça. Je connais ça et je trouve que c'est très, très intéressant. Mais parle-moi un peu du petit garçon que tu étais. Est-ce que la physique t'intéressait à l'époque? Tu étais le petit garçon qui bricolait, qui démontait les télévisions
Les télévisions, sûrement pas. Les vieux postes de radio à tube, oui.
Tu as fait des postes à galène?
Non, pas vraiment. Un tout petit peu. Mais surtout, ça m'intéressait de démonter pour voir comment ça marchait. Mais j'étais surtout le petit garçon qui était intéressé par les livres de Jules Verne, par les choses comme ça. Et bien alors, il faut dire que je n'avais absolument pas la notion de la différence entre l'ingénierie et la science plus fondamentale. Pour moi, c'était la même chose. Alors peut-être que c'est pour ça que finalement, j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour la technologie, même quand j'ai fait des recherches fondamentales. Je n'en avais pas la notion. Ben, par exemple, si tu prends l'île mystérieuse de Jules Verne, où les héros reconstituent complètement une civilisation à partir de leurs connaissances, eh bien, en réalité, c'est de l'ingénierie. Mais pour moi, c'était la science avec un grand S, tu vois. C'était le triomphe de la science.
Hier soir, je discutais avec le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques,
oui,
qui est un géographe. Et nous avons convenu d'organiser une journée autour de Jules Verne. Ça t'intéresse?
Ah, ben oui, bien sûr.
Bien sûr. Bon, alors ensuite, il y a une chose que j'aimerais discuter avec toi. À vrai dire, je connais déjà ta réponse. Le CNRS a été une chose importante dans ta vie?
Le CNRS a été une chose très importante parce que à l'époque où j'ai utilisé les moyens du CNRS, je n'étais pas un membre du CNRS.
Ah bon?
Non, mais c'était une époque où le CNRS avait une administration agile, je dirais. Et donc, c'était très intéressant en ce sens-là. Moi, j'étais maître assistant à l'École normale supérieure de Cachan. Et je faisais ma recherche à l'Institut d'optique. Et le CNRS gérait certains crédits de l'Institut d'optique. Donc, et c'était une administration qui était agile, et donc c'était intéressant. Voilà. Alors, le CNRS, si tu veux que je te parle du CNRS plus tard, quand, après une séquence avec Claude Cohen-Tanoudji, Jean Dalibard et Christophe Salomon pour refroidir les atomes avec des lasers, quand je décide de repartir monter un groupe d'optique atomique à l'Institut d'optique, là, le CNRS me soutient fortement puisqu'il me donne un poste de directeur de recherche et en même temps, il me donne un crédit substantiel qui me permet d'amorcer le laboratoire.
Tu avais quel âge?
Je ne sais pas, c'est quand j'ai quitté Cohen, c'était 2012. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas 2012, c'était 92.
Voilà,
92.
D'accord. Est-ce que, je sais que c'est une question qui est très différente entre le mathématicien que je suis et les physiciens que tu es, est-ce que l'enseignement a été une partie importante de ta vie?
Oui, absolument. Moi, je suis un enseignant dans l'âme. J'ai enseigné. Déjà, quand on était à l'École normale supérieure de Cachan, on nous mettait dans l'idée qu'on serait enseignant. Et on se formait vraiment avec l'idée qu'il fallait apprendre à communiquer ce qu'on savait. Et j'ai toujours adoré l'enseignement. Alors, il se trouve que je n'ai jamais fait que de l'enseignement à un niveau relativement élevé, puisque j'ai fait la préparation à l'agrégation à Cachan, j'ai fait des cours à l'École polytechnique. Mais j'adore enseigner. J'adore creuser un sujet autant que je le peux, à un niveau donné, au niveau qui est le niveau de ce cours-là.
Alors, tu sais que l'école normale supérieure, les écoles normales supérieures ont été créées initialement pour former initialement des enseignants.
Bien sûr que
Cette
je le sais.
mission a un petit peu disparu. Qu'est-ce que tu en penses de ces formations qui forment des chercheurs qui sont parfois extrêmement brillants, mais qui n'ont pas de contact avec les étudiants? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'il faut tout. Il faut de tout pour faire un monde. S'il y a des chercheurs qui n'aiment pas le contact, je pense qu'il faut encourager les gens à avoir les contacts. Par ailleurs, je pense qu'il faut absolument encourager les gens à être capables de faire des exposés. C'est-à-dire que même si on n'enseigne pas, si on n'est pas capable d'exposer correctement ses idées dans un séminaire, on a tout faux. Parce que c'est ce que je. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu fais à condition de le communiquer aux autres.
Bien sûr.
Donc, je pense que cette dimension-là est très importante, même si les gens n'enseignent pas. Mais bien sûr, si on enseigne, à mon avis, c'est infiniment plus facile de communiquer avec les autres.
Alors, j'avais encore deux petites questions à te poser. La première, c'est assez personnel. Comment tu as vécu ce moment de l'annonce de ce prix que tu probablement attendais depuis longtemps, à moitié explicitement, implicitement? Est-ce que ça a été un choc pour toi? Est-ce que ça a été un moment de bonheur, un stress? Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver maintenant? Comment tu vas gérer ce flux de demandes de rendez-vous? Et puis surtout sur le long terme, ça va changer ta vie. Tu vas être invité partout dans le monde, tu l'étais déjà, mais tu vas avoir une vie différente. Qu'est-ce que ça implique pour toi?
Alors, d'abord, tu as beaucoup de questions. Est-ce que je l'attendais? Je savais que ça pouvait arriver, mais j'avais depuis longtemps décidé que ce n'était pas obligé que ça arrive et que si ça n'arrivait pas, ce n'était pas catastrophique. Déjà, au fond, comme tu le sais, j'ai eu des très grands prix. Depuis que j'ai la médaille d'or, ton statut change vraiment le jour où tu as la médaille d'or du CNRS, en France, hein, pas à l'étranger. Mais en France, le jour où tu as la médaille d'or du CNRS, ça change complètement ton statut. Et vis-à-vis de l'étranger, tu le sais peut-être, j'étais déjà, au fond, bien connu.
Bien
L'expérience
sûr.
d'aspect, elle est dans les livres.
Ben oui.
Donc, je ne suis pas sûr que ça change. Alors, bien sûr, si le Nobel, c'est une étiquette qui change ton statut. Mais je dirais que dans la communauté, je ne suis pas certain, ça change le statut vis-à-vis du public. Parce que le
Certainement.
public, c'est un mot magique. Mais dans la communauté, je ne suis pas certain que ça change à 100%.
Bah évidemment, tu sais, même le pauvre mathématicien que je suis connaît ton nom depuis bien longtemps, bien avant que tu sois à l'Académie des sciences.
Oui, c'est un peu ça que je veux dire. Il se trouve que mon expérience a tellement fasciné les gens que les gens connaissent mon.
Je voudrais terminer par une autre question un peu différente.
Tu remarques que je n'ai pas répondu complètement à ta question
J'ai
précédente, mais ce n'est pas grave.
remarqué, bien sûr.
Non, mais je pouvais ré
Ah ben
répondre
vas-y, vas-y,
davantage
vas-y.
aussi.
Donc quel
Alors,
effet?
rappelle-moi la
Ma
question.
question, c'était comment tu envisages ce que ça va impliquer pour ta vie personnelle, pour ta vie privée?
Ben, d'abord, je vais essayer de me préserver. Et j'ai une femme qui va veiller au grain, ce que je me préserve. Mais d'un autre côté, se préserver, ça ne va pas dire couper complètement. Parce que si je coupe complètement de la vie que j'ai actuellement, je vais m'étioler. Donc, je vais essayer de jouer mon rôle pour aujourd'hui. Je pense que mon rôle principal, il est d'expliquer aux jeunes que la science, c'est formidable, première chose. Et deuxièmement, comme aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus motivés à faire ce qu'il faut pour essayer on va dire, de sauver la planète, je veux dire par là, de lutter contre le réchauffement climatique, je vais leur expliquer que c'est pas en rejetant la science, certainement pas en rejetant la science, qu'ils vont arriver à résoudre les problèmes. Si j'arrive à utiliser l'étiquette Nobel pour faire passer ces messages-là, je crois que c'est ce que m'aura apporté l'étiquette Nobel. Voilà.
Tu me fais connecter avec ma dernière question. Quand j'étais gamin, j'ai lu des tas de livres écrits par aussi un prix Nobel de physique que tu connais aussi bien que moi, sinon mieux que moi, c'est Gamow qui écrivait ses livres, je me souviens.
Tu es sûr qu'il a eu le prix Nobel, Gamow? Mais
ah,
peu importe.
Peu importe.
Mais on le connaît très bien, et toi et moi.
En tout cas, c'est un très grand physicien. Et oui. il écrivait ses livres merveilleux sur M. Tompkins.
Oui.
Et je me souviens de ce volume que j'ai lu, j'avais 12 ans ou 13 ans, j'en sais rien. M. Tompkins au pays des contats, dans lequel la constante de Planck est égale à 1, oui. Si je me souviens bien. Il se passait des phénomènes tout à fait incroyables. Et ces livres m'ont personnellement beaucoup influencé.
Oui.
Est-ce que
oui.
tu penses qu'aujourd'hui, des choses analogues ou peut-être des modes différents peuvent encore être importants pour les jeunes?
Alors, d'abord, moi, je crois que je suis incapable de faire des choses comme ça, mais je pense que dans le monde de la bande dessinée, on peut effectivement faire des choses comme ça. Bon, le meilleur exemple, c'est la bande dessinée à laquelle a participé notre confrère Thibaut Damour.
Oui.
Je pense que pour les jeunes, c'est un mode d'expression. Moi, mon mode d'expression, c'est quand même le discours construit, structuré, etc. C'est tout ce que je sais faire. Je sais articuler les idées. Par contre, je pense que je suis capable de simplifier, c'est-à-dire je suis capable de trier entre l'essentiel et l'accessoire. Je suis capable de beaucoup simplifier en gardant ce que je considère comme l'essentiel. Mais en revanche, je ne sais pas adopter les modes de communication modernes.
Tu as lu, M. Tompkins ?
Oui, bien sûr.
Ah, c'est merveilleux, tu es d'accord ?
C'est absolument merveilleux, mais je pense que je n'ai pas du tout le talent pour faire à M. Tompkins.
Alors, est-ce que tu as le talent pour parler dans les télévisions, dans les radios, comme
oui.
tu as fait depuis quelques jours ?
Oui, parce que, alors ça revient à ma formation d'enseignant, parce que je pense que ce que j'ai appris dans ma formation d'enseignant, c'est à essayer de réfléchir que savent les gens qui sont en face de moi, comment ils réfléchissent, et j'essaye de me mettre à leur place. Si tu veux. Et ça, il me semble que c'est une clé de l'enseignement, d'essayer de se mettre à la place des gens qui sont en face. Et je pense que quand je vais à la télévision, j'essaie aussi de me mettre à la place des gens en face.
Très bien. Écoute, on va terminer, mais il y a un point que tu m'as dit ce matin au téléphone, j'aimerais que tu le rappelles, c'est ton attachement à ton institut d'optique.
Oui, parce que l'institut d'optique, c'est l'établissement, c'est un petit établissement agile, à la fois public et privé. C'est-à-dire, il a un morceau de statut privé qui lui donne de l'agilité, et il a quand même un sérieux statut public, en particulier unité de recherche associée du CNRS, et dont les moyens publics, dont c'est très important. Mais l'agilité fait qu'à l'Institut d'optique, il y a eu un jeune professeur qui a eu le culot de me permettre de faire une thèse sur un sujet qui apparaissait baroque à l'essentiel de la communauté. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un seul autre endroit où on aurait permis à cette expérience de se monter. Et j'en veux pour preuve que je n'ai eu aucun concurrent pendant les 8 ans où je montais cette expérience. Personne dans le monde n'avait estimé intéressant, amusant de monter cette expérience. Et moi, ils m'ont laissé la faire, si tu veux. Ça, c'est vraiment pour ça que je lui suis tellement attaché.
Merci Alain. Alors pour terminer, je voulais te transmettre au nom de l'Académie des sciences et de non seulement les académiciens, mais si tu pouvais savoir la fierté que les membres administratifs de l'Académie ont ressenti en apprenant la nouvelle de ton prix. Donc au nom de tout le monde, je te félicite chaleureusement.
Je te remercie, mais je suis l'ex-petit provincial que je suis a été très fier d'être admis dans cette glorieuse compagnie.
Merci beaucoup Alain. Bonne journée et j'espère que tu ne vas pas trop te fatiguer à parler à trop de journalistes.
Ouais, écoute, tu as contribué à me fatiguer.
Désolé.
Mais tu n'es pas journaliste.
Merci beaucoup.